Allô, allô, mes petits curieux, ça fait longtemps qu'on vous a pas vu!
Ça fait au moins 1800 ans!
Oui, c'est William et la voix de Hélène, ma co-animatrice.
Ouais, une chance que tu me nommes, parce que je pense pas que le monde m'aurait reconnu avec
cette voix-là. Ben oui, c'est ça, c'est comme, c'est qui ça? Y a-tu changé? C'est qui est avec lui aujourd'hui?
Une nouvelle co-animatrice.
Mais non, on est toujours là, on est revenu recharger à bloc.
Ouais.
On a pris du temps pour nous, pour vous donner du meilleur contenu, hein, pour ouais. Travailler sur nous-mêmes.
Mais pas juste travailler sur nous, c'est aussi se poser la question de où est-ce qu'on s'en va aussi avec ce projet-là, parce que c'est sûr qu'on aime ça, mais en même temps, on travaille quand même à temps plein à côté.
C'est très prenant, puis en fait, pour faire un petit aparté avant de commencer l'épisode, on va continuer un peu sur le même format qu'on faisait, sauf peut-être qu'avec des saisons plus courtes pour cette saison-ci, puis sûrement qu'on va continuer comme ça à l'avenir, donc vous inquiétez pas. On va être là moins longtemps dans l'année, mais on va continuer à faire des TikTok deux fois par semaine.
Oui, c'est vrai. Ça, par contre, on s'est fortement amélioré là, sur notre fréquence de TikTok. On est maintenant présent les mardis et jeudis. Puis sinon, ben, on va être de retour une fois deux semaines pour 10-15 épisodes par saison, là, probablement.
C'est ça. Un mal pour un bien. Mais on est de retour aujourd'hui avec un sujet fascinant. En fait, deux sujets fascinants, un peu reliés. Moi, je vais parler des hystéries collectives, un sujet un peu mystérieux pour l'instant. Mais... vous allez voir, assez fascinant. Tandis que toi, Hélène, de quoi tu vas nous parler?
Moi, je vais faire un petit retour dans le passé québécois et parler de manifestations étudiantes, mais pas juste au Québec.
OK. Fait que pas juste 2012, là, aujourd'hui.
Non, c'est ça. J'en parle un petit peu, mais vraiment pas juste de ça. Mais avant, on démarre une nouvelle saison.
Mon
ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas entendu.
Notre merveilleux générique!
Oui!
Aujourd'hui, Hélène,
oui.
Comme j'ai dit en début d'épisode, j'ai envie de parler d'un phénomène psychologique et social des plus fascinants, nommé hystérie de masse, aussi appelé psychose collective ou encore le comportement obsessionnel collectif. Tu comprendras, me connaissant et nos auditeurs aussi commençant à me connaître, qu'avec un tel nom, j'avais même pas besoin d'en lire plus pour décider que c'est un sujet d'épisode.
Ah, c'est sûr! Il doit tellement y avoir de choses à dire là-dessus.
Oui, puis quand on parle de comportement obsessionnel dans Petites Obsessions, je trouve ça fit pour notre retour. Ceci étant dit, je vous laisserai pas sans explication. C'est pas parce que j'ai décidé d'en parler sans en lire que je peux pas vous dire qu'est-ce que c'est. Vous êtes là pour ça, vous êtes là pour écouter. C'est quoi une hystérie de masse? Il s'agit d'une apparition soudaine de symptômes physiques de manière épidémique, mais sans trace de troubles organiques ou de maladies.
OK.
Pour te donner une image, là, imagine, tu viens de rencontrer quelqu'un qui avait des poux.
Ouais.
Puis là, il est parti. Puis là, il dit « Hey, finalement, j'avais des poux. » Puis là, t'as juste la tête qui démange sans cesse.
Tu viens de décrire les trois ans de COVID, là.
Oui, effectivement. Mais c'est ça. Là, l'affaire, c'est
qu'à chaque fois que quelqu'un était comme « Hey, je me suis mise à éternuer, on s'est vu vendredi soir, pis tout ça », t'es comme « Cresson, mes tests, là. »
Tu me devances,
complet.
Mais on y touche quand même un certain point. Parce que l'hystérie collective, c'est le sentiment de la tête qui pique, sauf sur un groupe vraiment massif. Ce qui est vraiment fascinant avec tout ça, c'est que on sait pas pourquoi les gens... réagissent comme ça.
Ben là, on le sait, c'est parce qu'ils sont débiles.
Oui, mais...
Je dis ça comme si j'en faisais pas partie. Je suis la première des débiles.
Non, mais on sait pas l'origine physiologique de ce qui fait que les gens vont faire des hystéries de masse. Puis tu vois, il y a des niveaux beaucoup plus élevés que ce qu'on a parlé juste là.
OK.
Mais ceci étant dit, il y a rien de mieux pour se faire une idée de qu'est-ce que c'est avant d'en rentrer dans le pourquoi du comment que des bons vieux exemples d'hystérie de masse dans l'histoire.
Ben moi, j'attends juste ça, là.
Ben, je sais, mais j'y arrive! Commençons avec un cas intéressant illustrant bien le phénomène survenu en septembre 2018 à bord du vol EK203 de la compagnie Emirates.
Mm-hmm.
C'était dans un vol d'une durée de 14 heures entre Dubaï et New York où 106 des 521 passagers se sont mis à avoir des symptômes de toux, d'éternuement et de fièvre, certains allant même jusqu'à vomir. Fait que tu comprendras que quand tu as 20% de ton avion qui est genre super malade, ça déclenche une coupe d'alarme. Fait qu'ils sont atterris à New York. L'avion a été mis automatiquement en quarantaine, le CDC sont arrivés, ils ont évalué l'état des passagers, puis ils ont essayé de trouver l'origine. Après des tests, on a déterminé que la grande majorité d'entre eux n'avaient absolument rien.
Mm.
Oui, il y avait quelques cas d'influenza et de rhume dans l'avion, mais rien de majeur. Peut-être qu'il y en a là-dedans, dans les 106, qui l'ont attrapé, l'influenza de ces personnes-là, mais
Ben, ça prend plus de temps que ça.
Ça prend plus que 14 heures. Là, ouais. Fait que ça aurait pu prendre quelques jours avant qu'il tombe malade. Fait que 106 personnes qui se sont mis à tousser puis avoir mal à la gorge puis à éternuer sans aucun virus dans leur corps en dedans de 14 heures, juste en étant en contact.
Ouais, mais en même temps, moi, j'entends une centaine de personnes à côté de moi éternuer, vomir puis tout. Puis je pense
T'as une petite impression que ta gorge gratte tout d'un coup. Ouais. Hein? Fait que t'aurais sûrement été dans les 106 toi aussi.
Surtout qu'il y a du monde qui sont comme, tu sais, hémétophobes ou de quoi. Ouais. Genre, ils voient quelqu'un vomir.
Ouais, le vomi, c'est une chose, mais tu sais, le grattement, etc. Oui. Tu vas voir, il y a une couple de cas.
C'est
un
contagieux.
Peu plus... Ouais, une couple de cas un peu plus intense. Mais un autre cas semblable, disons, en octobre 2018, 68 étudiantes ont été isolées au Kenya, suivant des symptômes de toux, d'éternuement, de fièvre. L'école a été fermée, des tests ont été faits. Seulement deux étaient atteints d'un rhinovirus. Puis là, ben, des spécialistes en santé mentale sont allés à l'école, puis ça a été classé comme hystérie de masse. Des fois, il y a des symptômes plus étranges aussi. C'est arrivé aussi à Montréal.
Oh!
En 1894.
Montréal,
Canada. Yes! The real one.
Yeah.
En 1894, tandis que 60 étudiantes dans un séminaire se sont mises à faire des crises d'épilepsie puis avoir des convulsions sans explication. Puis chez certaines, ça a duré pendant 2 mois. Puis on n'a jamais trouvé l'origine de pourquoi 60 étudiantes avaient ces symptômes-là.
Aïe, c'est fou. Moi, c'est arrivé en plus à une fille au secondaire pendant un examen, genre. C'est quand même assez impressionnant de voir quelqu'un faire une crise d'épilepsie. Fait
ouais, mais là, t'as 60 étudiantes qui, pour aucune raison,
se
mettent à tomber.
Pour que ça fasse en sorte que d'autres fassent des crises d'épilepsie. Comme...
Mais c'est pas nécessairement genre 60 tout d'un coup dans la même journée, dans la même salle.
OK.
C'est comme dans les jours qui suivent, les filles commencent tranquillement à tomber une à une. Puis c'est comme, ça a l'air d'une épidémie, d'un virus qui arrive tranquillement. Là.
Ouais.
Un des exemples, là, c'est au Sri Lanka en 2012, 1900 élèves dans 15 écoles différentes sur une période de 5 jours. Fait que 1900 élèves en 5 jours ont été traités pour avoir la peau qui démangeait, des vomissements, des vertiges et une toux sans explication. Aucune trace de virus à l'intérieur d'eux.
De varicelle ou rougeole, quoi.
Exact. C'est juste comme des écoles, c'est juste parti tout d'un coup.
Fait que quand mon frère il dit qu'il a pogné la gastro de ses enfants, c'est peut-être pas vrai.
Non, mais il y a des cas qui ont vraiment des virus, mais il y a des cas qui sont inexpliqués. Comme ça,
ouais.
Où 500 adolescentes qui, entre octobre 2006 et juin 2007, ont déclaré avoir la nausée et même certaines avoir de la difficulté à marcher. Puis certaines sont devenues même à moitié paralysées pendant quelques semaines, quelques mois, dans certains mm-hmm. cas. Fait que, tu sais, des cas assez majeurs. Là, je parle beaucoup de femmes, mais à San Diego, en 1988, dans la US Navy, il a fallu évacuer 600 hommes de leur baraque parce qu'ils disaient avoir de la difficulté à respirer, mais on n'a trouvé aucune toxine et aucune intoxication alimentaire n'a été trouvée.
Mm-hmm.
Fait que des fois, il y a des moments comme ça où tout le monde a les mêmes symptômes sans explication externe, disons.
Mais tu sais pourquoi tu parles beaucoup de femmes?
Ben, je sais pas.
Parce que hystérie et utérus, c'est la même étymologie.
Fait que t'es en train de dire que les femmes sont toutes folles?
Non, mais jadis, là, dans la croyance populaire, on disait que les femmes étaient forcément hystériques parce que ben c'est elles qui avaient un utérus, tu sais.
Mm-hmm.
On disait jamais qu'un homme était hystérique, on disait qu'il était fou ou peu importe, mm-hmm. tout ça, mais hystérique, c'est quand même une coche au-dessus de fou, là, tu sais.
Ouais, ben peut-être que l'origine du terme est là, mais je vais y revenir plus tard, mais ça l'apparaît plus souvent chez les femmes que les hommes.
Ben oui, parce que c'est toutes des crises de folle.
Non! Franchement, là, on peut pas revenir puis commencer comme ça.
Hey, je suis une femme, j'ai le droit de le dire.
Pas sûr!
Non, mais sans blague, ça a longtemps été perçu comme ça. T'sais, c'est pour ça aussi que les femmes, c'était des sorcières. T'sais, on disait tout le temps que, justement, c'était des vieilles folles. Ou justement, quand
elles étaient menstruées, toujours plus...
quand elles étaient menstruées, c'est justement l'hystérie qui sortait de leur corps puis... Ça leur faisait faire des affaires
ouais, ben,
par rapport
aussi,
et tout, alors que ça n'a pas de lien nécessairement. Là. Tu peux être fou ou folle sans
ouais,
avoir
ben,
d'utérus.
Dans le monde du travail, une femme fait une erreur, est incompétente. Un homme fait une erreur, ben c'est pas grave, là, il va se reprendre la prochaine
ouais,
fois.
Exactement.
Là, fait que oui, société très sexiste, mais c'est quand même pas là que je veux aller, là, malgré tout. En tout cas, le mot-clé dans tout ça... C'est pas relié avec les femmes spécifiquement, mm-hmm. mais c'est l'anxiété. Notre cerveau, il est fort quand il veut, puis c'est pas nécessairement juste pour les bonnes affaires. Hein. Imagine la situation avec l'avion Emirates. Ton avion est en quarantaine, t'as les médias qui attendent dehors et un dos dans le scaphandre jaune qui te demande comment tu te sens. C'est sûr, ta gorge qui pique un petit peu. Là.
Mm-hmm.
Fait qu'il y a vraiment cette partie-là psychologique. On sait pas pourquoi physiologiquement on est comme ça, puis qu'il y a des liens qui se font un peu. c'est une partie un peu d'empathie, puis c'est peut-être ça qui touche un peu aux femmes. Tu sais, quand tu dis parce que les femmes sont beaucoup plus empathiques que les hommes.
Oui, les femmes sont beaucoup plus empathiques que les hommes, puis tu sais, même, il y a beaucoup d'études qui disent que les femmes sont plus susceptibles d'être atteintes d'un trouble de santé mentale, style dépression, anxiété, tout ça. Mais en même temps, puis là, bon.
Là, c'est pas... un autre niveau de la dépression que de te mettre à vomir puis paralyser.
Non, c'est sûr. Puis tu sais, j'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je pense que les femmes aussi vont plus chercher de l'aide, vont plus chercher des diagnostics. Fait que
peut-être, ouais, peut-être que les gars qui avaient mal à la gorge, pareil, dans mon histoire.
C'est ça, peut-être mais... que l'écart est pas si flagrant que ça entre les hommes et les femmes, mais par
comme
rapport, mettons,
dis,
à l'anxiété et tout.
C'est
là.
Un domaine qu'il y a très peu d'études, ouais, pour l'hystérie collective. C'est juste très fascinant comme phénomène. Mm-hmm. C'est pas récent. Je t'ai donné des exemples assez récents, là, de...
Il y en avait déjà au Moyen-Âge, puis tout, là,
oui,
c'est sûr.
Par contre, ce qui est vraiment fascinant, c'est qu'on n'avait pas les mêmes inquiétudes, mêmes anxiétés à l'époque qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a surtout peur des maladies, la pollution, l'intoxication alimentaire.
Ah non, à l'époque, on n'avait pas peur.
Aujourd'hui, ce qu'on retrouve, ben, c'est des symptômes reliés à ça. T'sais.
Ouais.
On a mal à la gorge, on a l'impression d'avoir mal au ventre, etc. Tandis qu'à l'époque, les épidémies étaient déclenchées par des pensées par rapport aux démons, aux possessions, puis aux événements religieux.
Les sorcières.
Oui, entre autres. Mais un exemple incroyable de ce phénomène à l'époque est ce qu'on appelle l'épidémie d'enceinte de 1518. C'est, c'est une épidémie qui est arrivée à Strasbourg alors qu'une femme, Frau Trofea, s'est mise à danser, dit-on, avec ferveur dans la rue pendant 4 à 6 jours, sans arrêt.
Mon Dieu, elle devait être fatiguée à la fin, la madame?
Oui. Après une semaine, il y avait 34 autres personnes qui s'étaient jointes à elle, et après un mois, ils étaient 400 à danser.
C'est un flash mob, là, dans le fond, là, que tu me dis.
Un flash mob d'un mois, quand même, où des gens n'arrêtent jamais. Certaines de ces personnes ont d'ailleurs fini par mourir d'une crise cardiaque, d'un AVC ou tout simplement d'épuisement.
Mm.
Pour l'image, là, c'est pas genre des jeunes au pique-nique électronique, là. C'est plus les sans-abri au parc Émilie Gamelin, là, qu'on parle. Là. On ignore toujours aujourd'hui pourquoi ces personnes-là dansaient, mais clairement, ils allaient pas bien, là, tu sais, parce que pour
ben, cette partie-là,
peut-être, mais ce n'est pas le seul événement de la sorte, parce qu'il y en a eu d'autres. Des moments comme ça, on appelle ça les manies dansantes ou la danse de Saint-Guy. Je sais pas pourquoi, mais Saint-Guy est impliqué là-dedans.
Il aimait bien giguer, Guy.
Guy giguait pas mal, mais il y a eu des événements comme ça en Allemagne, aux Pays-Bas, en France et même au Madagascar. Après, pour le cas à Strasbourg, on est en 15-18, hein, fait que ça peut être traité médicalement comme il faut, là. Je te dirais même un peu comme de la marde, là. On dit alors que ces personnes avaient un sang trop chaud.
Okay.
Fait que, surprenamment, ils n'ont pas eu une saignée, hein, comme ils faisaient pour toutes les maladies à l'époque. On a plutôt opté pour essayer de les épuiser pour qu'ils finissent par arrêter.
OK, c'était dans le fond un défi Big Brother, là.
Mais quasiment, ils ont dit, mon Dieu, ces gens-là sont fous, ils dansent. Ben, ils ont installé une scène puis ils ont embauché des musiciens pour les encourager à continuer à danser. Parce qu'ils se disaient, ben, quand ils vont être fatigués, ils vont tomber. Puis on pourrait soigner, ils vont arrêter de danser, ils vont être tannés. Mais finalement, les gens sont morts. Bravo, bonne façon de traiter la santé mentale. Bravo, les années 1500.
Non, mais Jean-Thomas Jobin, c'est juste la réincarnation de cette madame-là.
Oui, exactement. Mais bon, outre l'anxiété, qu'est-ce qui unit toutes ces hystéries? On constate qu'elles arrivent généralement plus dans les écoles, les hôpitaux, les lieux de travail ou les petites communautés.
OK, fait que les lieux rassembleurs.
Fait qu'il y a un lien social quand même, ouais, dans tout ça. En gros, tant qu'il y a beaucoup de monde qui se font capoter l'un l'autre, ça peut arriver. Si en étant témoin des autres cas, que les gens finissent par avoir des symptômes, du moins, c'est ce que j'en conclue un peu avec le peu d'informations scientifiques qu'on a sur les symptômes.
Ouais.
Fait que t'apprends avec des pincettes là, comme explication scientifique, puis le côté des femmes, puis d'empathie aussi. Parce que, comme j'ai dit, ici, ça arrive plus souvent chez les femmes que les hommes, en tout cas, de ce qu'on constate. Question d'empathie plus élevée, qui sait? Je parlais de flou scientifique, mais dans le fond, quand on y pense, les cas d'hystérie recensés proviennent principalement d'absence de causes trouvées.
OK.
Dans le fond, tu sais, si les médecins font des tests, c'est comme, mais t'as pas l'influenza, t'as pas ça, t'as pas ci.
Ils sont dans un désert médical, là.
Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus dur de prouver ou réfuter un résultat négatif qu'un résultat positif.
Ouais, effectivement.
Tu sais, un faux négatif versus un faux
positif.
Pour
avoir un diagnostic d'exclusion, là. Je peux vous dire à quel point c'est compliqué.
Ben c'est ça. Dieu sait le nombre de fois que les médecins ont pu dire que quelqu'un avait rien, mais que finalement, il y avait vraiment quelque chose, il avait juste pas regardé à bonne place,
ouais,
ou qu'il y a des diagnostics d'exclusion. Donc, on peut pas dire à 100% que chaque cas d'hystérie qu'on a dit dans l'histoire était réellement des cas d'hystérie.
Ouais.
Puis, une autre partie, c'est qu'on clôt les dossiers automatiquement une fois que c'est dit ça. Ben, ah, il y a pas de virus, c'est un cas d'hystérie. Fait que c'est classé, les experts s'en vont, on publie les résultats, puis basta. c'est difficile pour les autorités de prévenir des futurs cas parce que là, tu sais pas qu'est-ce qui a pu causer ça. On fait juste, ah non, mais les gens sont juste virés fous, laissez-les faire.
Ouais.
Mais pourquoi est-ce que les gens virent fous? Pourquoi est-ce qu'il y a un lien social? Pourquoi qu'on mène à ça?
Les autorités, ils aiment ça justement.
Mettre la faute
comme,
sur...
Ben, surtout avoir une explication précise.
Ouais.
T'sais, ils vont pas dévoiler quelque chose en disant comme, ben, on pense que...
Non,
mais
fait
que
dis, hystérie collective.
Il y a 50% de chances que ce soit ça. T'sais, c'est comme, ouais. Ça marche pas, là.
Fait qu'ils disent, hystérie collective, c'est réglé là-dessus, mais il y a pas d'études encore sur les effets chimiques du cerveau dans un tel cas. En tout cas, j'en ai pas trouvé à date. Ceci étant dit, j'ai parlé de situations ultra étranges provenant des maladies inexpliquées. Mais j'ai volontairement évité un autre type d'hystérie de masse qui pourrait peut-être nous donner un autre indice, non sur la cause chimique, mais peut-être sur les causes sociales.
OK.
Ça serait des hystéries que je qualifierais de visuelles. Pour illustrer le tout, voici une petite histoire.
Mm-hmm.
L'épidémie d'éclat de pare-brise de Seattle.
OK.
Tu sais, quand t'as un petit trou dans ton windshield
ouais.
à cause d'une roche.
Ouais.
Ben, en avril 1954, les résidents de Seattle se sont mis à déclarer en masse des éclats dans leur pare-brise.
Y a-tu eu une tempête de verglas, quelque chose?
Ça popette partout, le monde. Il y a un trou. Ben moi aussi, ah, comment ça, qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupes qui parlaient qu'il y avait des gens qui s'amusaient à tirer au baby gun sur les voitures. D'autres croyaient qu'il s'agissait d'œufs de puces de sable pris dans le pare-brise qui éclataient ou qu'il y avait des tests nucléaires pas loin puis ça devait faire voler des petites particules dans les autos. Le monde capotait bien raide comme pourquoi ça l'apparaît tout d'un coup, les trous dans nos pare-brises.
Ouais.
Mais la cause, finalement? À rien. Des gens ont entendu parler que du monde dans leur entourage avait des trous dans leur pare-brise. Ils ont checké leur pare-brise et ont fait « Hey, moi aussi! » Mais ils étaient
juste...
déjà là.
C'est ça. Ils l'avaient pas remarqué avant.
Fait que psychologiquement, les gens se sont inventés une nouvelle crise. Fait que tu comprends mieux le syndrome physique quand tu comprends que ça peut arriver avec des trucs vraiment externes. C'est le même phénomène quand t'achètes un char, puis que soudainement, on dirait que tous les chars autour de toi, c'est la même marque. C'est
ouais.
un biais cognitif où t'as juste une hyper-vigilance. Sur quelque chose. Puis là, comme tu peux avoir une hyper-vigilance sur les symptômes physiques de ton corps, de la fatigue extrême, j'en ai tout le temps. Fait que c'est pas parce que j'ai la COVID, tu sais.
Au début de la COVID, on était toutes comme « Ah, oh, c'est la gorge qui me gratte un petit peu. »
Mais des fois, ça nous arrive,
c'est juste que t'avais avalé ta tosse de travail, tu sais.
C'est ça. Mais là, du coup, plus tu penses à ça, plus il y en a d'autres cas comme ça.
Mm-hmm.
Puis ça peut être juste l'imagination qui te joue des tours. Quand il y a une vidéo d'OVNI qui devient virale, soudainement, il y a toujours une vague de gens qui disent en avoir vu la semaine suivante. C'est pas une invasion ou l'heure du voyage scolaire martien, là. C'est juste tes cerveaux qui partent, là. Genre, ils voient ça puis ils se font des liens cognitifs, comme le trou dans le pare-brise, comme le mal de gorge. Du coup, je pose la question. Est-ce que les médias n'auraient pas un impact sur notre hystérie collective? Dans le sens que la TV, les réseaux sociaux, c'est un peu nos nouvelles écoles, églises, etc., notre petite communauté.
Ouais.
Puis ça transformerait ce qui était des petites épidémies de « Ah, j'ai mal à la gorge » en plus grand phénomène.
Mais écoute, pour avoir travaillé dans le domaine et étudié le domaine des médias, il y a un effet qu'on appelle l'infodémie,
mm-hmm.
qu'on a beaucoup vu là, durant la COVID-19. Je sais qu'on est toutes tanné d'en entendre parler,
ouais.
là, que c'est plus ou moins fini. Mais tout ça pour dire que la pandémie, cette situation-là, a créé une éclipse médiatique. La Terre, elle a pas arrêté de tourner là, pendant qu'il y avait la
ouais.
pandémie. Il y avait quand même des guerres, il y avait quand même des conflits autres, des gens qui avaient des accidents d'auto, du trafic sur la 40, bon, tout ça. Mais 99,9%...
C'était juste ça.
Puis c'est ça, puis on est aussi dans une ère d'infobésité où on a beaucoup trop de contenu pour notre capacité de consommation.
Fait que c'est sûr que quand t'en entends parler tout le temps, c'est là que t'as les symptômes encore plus.
Exactement, puis ça cause énormément d'anxiété, puis le moindre, comme tu dis, petit grattement de gorge ou quelque chose... Moi, je me rappelle, ma mère, au début, on avait des symptômes.
Ouais, ben on s'est tout testé,
début de la COVID,
finalement,
là,
il n'y avait rien.
On a fait
une
méga gastro de la mort, là. Puis on était comme, ah ben... C'est peut-être ça qu'on a attrapé, mais tu sais,
c'est une gastro, ça existait pareil. Là.
C'est ça, mais c'est parce que c'est ça. Puis des coronavirus, ça
oui.
fait des années qu'il y en
mais
a.
Mais bon, ça suffit la COVID,
mais
on
voilà.
en sait parler.
On arrête d'en parler.
Ça
mais c'est ça pour dire que oui, effectivement, les médias
ben,
ont ce devoir de nous informer, mais des fois, c'est difficile de faire la juste mesure dans OK, là, c'est trop, puis ça,
ouais.
ça crée de l'anxiété plus qu'autre chose. Là.
Ben, un vrai. Exemple que j'ai, c'est en 1999 en Belgique. Il y a des centaines de personnes qui ont déclaré être malades après avoir bu un Coke,
okay.
du Coca-Cola.
Sacré multinational.
Bien entendu, c'était médiatisé. Coke a fait retirer 30 millions de bouteilles des étagères,
ben oui.
mais il y avait absolument rien dans les bouteilles. Il n'y avait pas de truc qui rendait malade. Peut-être qu'il y a des gens qui ont été malades. Les médias en ont parlé.
Mm-hmm.
Les gens ont fait « Fuck, j'ai bu un Coke. » commence à pas bien filer. Fait que là, il y a eu plein de déclarations, mais finalement, il n'y avait rien. Ça, c'est arrivé quelques mois après un gros scandale alimentaire en Belgique.
OK.
Fait que là, les gens ont fait un lien 1 plus 1. C'est sûr qu'il y a de quoi, c'est sûr que c'est pas
43.
Bon. Sinon, ces gens-là, ils auraient bu leur coke dans leur coin puis tout aurait bien été, là, mais c'est parce qu'ils l'ont vu dans les médias. Ceci étant dit, là, je vous entends à la maison, là, je l'entends votre petit papier d'aluminium pour faire votre chapeau conique là, puis partir dans les conspirations. Là. Justement, je ne suis pas en train de dire que la COVID n'a pas existé puis que les médias ils essaient de nous rendre malades en inventant des maladies. Là.
Non, c'est ça, il y a quand même des...
Il y a des situations, puis ça se peut que quelques personnes
des,
sont tombées malades.
Des salmonelles, puis tout ça, ça existe.
C'est
là.
Ça. C'est juste que moi, je veux vous protéger, pas contre les médias, mais contre vous-même.
Mm-hmm.
Plus précisément, votre anxiété. Les scientifiques ne savent peut-être pas encore officiellement ce qui cause les hystéries de masse au niveau social et psychique, mais l'anxiété puis le bouche-à-oreille, ça a l'air d'avoir un impact.
Et ça, c'est un anxieux qui vous le dit.
Oui. Donc, ce que je vous dis, c'est que si vous voulez pas vous mettre à faire des convulsions parce que vous avez vu une vidéo d'une fille qui en a fait après avoir mangé une toast, ou que vous voulez pas vous mettre à croire que les Illuminati viennent crever vos pneus pendant la nuit, prenez un petit pas de recul.
Ouais.
Utilisez votre esprit critique, respirez un bon coup, vérifiez...
Faites vos recherches.
Vérifiez les sources. Les sources.
Ouais, non,
pas vos recherches sur Google, les sources. Et ça, même si c'est quelque chose que vous entendez sur le podcast, vérifiez. On sait jamais, on peut se tromper, on est faillible. Donc,
effectivement.
Posez-vous aussi des questions. C'est quoi les chances que vous soyez malade après avoir croisé Jean-Paul 5 secondes dans le couloir?
Puis pour renchérir sur ce que tu dis, justement, on est faillible. Il y a déjà des abonnés qui nous ont écrit pour nous dire « Ah, mais cette information-là, c'est pas inexact, mais c'est pas tout à fait ça. » On apprécie vraiment beaucoup vos retours. Là,
on
fait
découvre les
pas.
Choses. On fait des recherches pour écrire là-dessus, mais on n'est pas des chercheurs
On n'est pas des spécialistes de tous les domaines dont on parle,
c'est
au contraire.
Ça. On aime s'intéresser à tout, par contre.
Ouais.
C'est ça qui est le fun. Donc voilà, n'oubliez pas, votre cerveau est fort, puis peut vous rendre complètement fou. Vous voulez pas vous rendre à danser jusqu'à votre mort dans les rues de Strasbourg. Voilà, ça conclut ma partie.
Ben écoute, Will, quand tu m'as partagé ton idée de sujet, je me suis demandé de quoi je pourrais bien parler. Parce que, ben tu sais, je voulais pas parler non plus d'hystérie collective puis être susceptible de parler des mêmes affaires que toi, là, dans le fond.
Ouais, tu voulais pas parler des madames hystériques puis de tout.
Ben
là.
C'est ça, tu sais, je pourrais faire une longue tirade sur l'étymologie du mot hystérie
on
et avoir mon petit discours féministe. Je pourrais aussi parler d'autres pathologies du genre, mais je sais pas, on dirait que l'aspect rassembleur collectif, c'est ça qui m'intéressait beaucoup. Parce
on
que
parle de groupe aujourd'hui.
C'est ça, exactement. Puis en y réfléchissant, je me suis dit que je pourrais parler de mouvements collectifs.
Mm-hmm.
Puis au début, tu sais, j'essayais de regarder si je trouvais des mouvements collectifs positifs, intéressants, tu sais, justement rajouter de quoi ben, un petit peu plus hop la vie.
Je juste me dire, vous êtes toutes fous, gang de fous.
Mais... j'ai pas tant trouvé de mouvement de solidarité. Fait qu'appel à tous. Si vous trouvez des affaires dont vous voudriez qu'on parle dans le podcast...
ou essayer d'être des meilleures personnes pour qu'on puisse en parler dans le futur.
Exact. Fait que je suis tombée, par contre, dans mes recherches sur un article sur des manifestations étudiantes.
Mm-hmm.
Puis là, je me suis dit, c'est vrai qu'il y a rien de plus hystérique que des jeunes adultes qui bloquent le pont Jacques-Cartier et camouflent leurs revendications à grands coups de casserole.
On s'appellera de Pauline, qui était sur un balcon avec une casserole.
Puis cet article-là, il relatait les manifestations étudiantes les plus insolites de l'histoire.
Puis on en faisait partie.
Ouais, c'est ça, wow. Exactement. Il y a une petite partie du printemps érable qui en faisait partie. Fait que, ben, j'ai envie de vous partager ça aujourd'hui. Fait que la première manifestation étudiante dont j'ai envie de te parler concerne une chaîne de fast-food et l'Université de Californie à Berkeley.
OK.
Tu connais peut-être Panda Express?
Oui.
C'est la plus grande chaîne de restauration rapide asiatique aux États-Unis avec quelques 1500 succursales.
Fun fact, il y a plus de Panda Express dans le monde que de Panda.
Je sais pas si c'est dans le fun.
Un fun fact.
Ben, en 2009, Panda Express voulait ouvrir un nouveau restaurant sur l'un des campus de l'université. Puis disons que ça faisait pas vraiment l'unanimité pour diverses raisons. Notamment parce qu'il y avait déjà d'autres fast-foods sur le site. Fait que tu sais, à quel point ça allait bonifier l'offre. Bof. Mais aussi parce que beaucoup pensaient que ça pourrait nuire à la réputation de l'université qui était particulièrement axée sur tout ce qui est développement durable.
Ah oui, fait que c'est beaucoup de...
fast-food, développement durable,
déchets, là,
c'est puis... rare que ça marche ensemble. Donc, il y a une vingtaine d'étudiants qui ont manifesté devant les portes de la succursale d'El Cerrito, qui est à quelques minutes du campus de Berkeley. Et en plus du contexte assez particulier, il y a des étudiants qui étaient déguisés en panda.
Ben oui.
Parce que, pourquoi pas?
Y avait-tu Arnaco Panda? Arnaco? Anarco Panda?
Je pense que oui.
C'est sûr qu'il s'est pointé là-bas, là, je veux dire.
Je pense que oui, mais il y a des photos là, sur les
mais
internets.
Tu sais ce que je veux dire? Justement, il était là dans le printemps érable.
Oui, 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 c'est ça, exactement. Je pense, mais il faudrait vérifier que l'université finalement a décidé de ne pas ouvrir de Panda Express sur le campus. Mais je trouvais ça quand même bien drôle que ce soit une manifestation
de mascottes.
Ouais, anti-fast-food avec des mascottes.
Quand même.
Ça m'amusait. J'en ai déjà glissé un mot en prémisse de ma partie. Je veux évidemment pas passer à côté du fameux printemps érable. Personnellement, j'étais encore au secondaire à l'époque. Fait que je peux pas dire que je suivais assidûment là, tous les soubresauts de cet événement, même si, bon, j'essayais de me tenir un peu au courant de ce que l'avenir me réservait, tu sais, si j'allais pouvoir étudier ou si justement j'allais directement porter mon CV au McDo. En tout, il y a près de 250 000 personnes qui ont parcouru les rues de la province pour faire entendre leur voix. Je pense
un peu plus
même
que les 20 pandas, là.
Ouais, c'est ça, je pense que t'en faisais partie.
Oui, j'en ai fait partie deux fois à Piquetage à Joliette, puis une fois je suis venue à une des grosses, là. Puis c'est ça. Je pense pas que j'ai fait la différence, mais j'étais là.
Ben, écoute, je pense que t'as assisté à une manifestation...
historique.
Oui, historique, mais relativement normale, justement, avec du piquetage, puis bon, des
fois... Oui, les gens étaient assis, puis c'est juste la police qui est arrivée avec... genre, tassez-vous, le trafic s'en vient. On peut pas bloquer le trafic.
Non. Mais durant une des manifestations, il y a plusieurs personnes qui se sont mis à se déshabiller pour protester en sous-vêtements, afin d'attirer encore plus l'attention du gouvernement canadien.
Ah oh, ouais.
Mais le plus cocasse, c'est que la plupart des gens avaient pris la peine de mettre des sous-vêtements rouges pour représenter leur camp de carré rouge.
Ah oui, quand même.
À Santiago maintenant, donc la capitale du Chili, les revendications étudiantes étaient assez similaires à celles qu'on a connues justement au Québec en 2012. En gros, en 2011, la communauté étudiante s'est élevée contre la baisse des normes d'éducation et surtout la hausse des coûts. Mais la méthode de protestation, elle, était pour le moins inhabituelle. Plutôt que d'opter pour des pancartes, du piquetage ou pire, la violence, il y a une centaine d'étudiants qui se sont rassemblés pour s'échanger des baisers devant la cathédrale de la ville. Vite de même, t'es comme... Je vois pas
c'est
le
quoi
lien.
Le rapport, hein?
Mais c'est qu'il y avait des pancartes qui affichaient un message assez clair. L'amour est gratuit, l'éducation ne l'est pas.
Ah, OK.
Est-ce que ça a fonctionné? Ben, décidément, ça bouge à San Diego parce qu'il y a une autre manifestation qui a eu lieu en 2011. En fait, il y en a eu plusieurs autres, mais il y en a une autre dont je veux te parler. Sauf que cette fois-ci, on parle pas juste de petits becs net frais de sec. En fait, ils ont fait revivre le roi de la pop le temps d'une soirée. Michael Jackson, qui on se rappelle, est décédé en 2009, là, donc 2 ans avant. Ils sont habillés en zombies comme dans le célèbre clip Thriller et en recréant la chorégraphie devant le palais du président. Encore une fois, la métaphore était assez puissante. Pour la communauté étudiante chilienne, l'éducation nationale était en train de mourir.
Ils sont très poétiques dans le fond
oui,
là-bas.
Oui, c'est ça. Je sais pas si ça a fonctionné, si ça a permis de changer les choses. C'est quand même beaucoup d'informations. C'est des pays aussi, tu sais, où on n'a pas nécessairement toute la couverture que ça aurait mérité. Hein. Mais donc, je trouvais ça quand même assez intéressant comme protestation. 2011 a été une grosse année là, pour l'éducation à travers le monde parce que à l'Université de North Texas, on adopte un règlement interdisant de fumer sur le campus, qui est quand même normal.
Ouais.
Fumer la cigarette, là, évidemment, on parle pas encore
de la
cannabis.
Weed.
Non, c'est ça. Tu crois peut-être que ce sont des étudiants fumeurs qui ont parti le mouvement protestataire,
pas
mais
les
non.
Profs.
Non, non okay. plus. L'un des leaders, Clint Townsend, ne fumait pas, mais il a déclaré « Je crois à la liberté individuelle et à la responsabilité personnelle ». Avec d'autres étudiants, ils ont formé le Young Americans for Liberty, s'inspirant de Ron Paul, un candidat républicain réputé pour son attitude libertaire, et ils ont ensuite distribué des cigarettes gratuitement et fait signer une pétition. À l'heure actuelle, le campus est toujours sans fumée, fait que ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est rare qu'un enfant proteste pour manger ses légumes, mais c'est aussi rare que des étudiants militent pour pouvoir étudier. Sauf à l'Université de Floride Sud, je le sais, c'est surprenant.
Des gens en Floride qui veulent étudier.
Oui. Pour que tu me comprennes mieux, c'est que les horaires de la bibliothèque ont été réduits en août 2013, passant d'une ouverture 24h sur 24 à une fermeture entre minuit et 7h30 du matin.
Là, c'est raisonnable, mais...
Ben, c'est ça, tu dois te dire comme, OK, là, c'est juste fermé durant la nuit, c'est pas super. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui comptent sur ces heures-là pour étudier, étant donné que soit ils sont en cours ou au travail durant la journée ou ils ont leurs enfants ou peu importe. Fait que plutôt que d'organiser un sit-in comme on le voit souvent dans ce genre de situation, il y a une trentaine d'étudiants qui ont organisé un sit-out et ont installé un campement devant les portes de la bibliothèque. Il y a plus de 1600 personnes aussi qui ont également signé une pétition et l'université a fini par céder et rétablir les horaires habituels.
Hmm.
Fait que ça, c'est quand même une bonne chose. Ça arrive aussi souvent qu'il y a des salons ou des foires de l'emploi qui soient organisés dans les établissements d'enseignement supérieur, hein, à l'université, au cégep, on le voit souvent. C'est le cas de l'Université de Sheffield en Angleterre, sauf que tous les experts ne font pas toujours l'unanimité. En mars 2013, l'entreprise Thales l'a bien compris. Thales, c'est un fabricant d'armes et de véhicules militaires. Le groupe Fund Education Not War a organisé non pas un bed-in, mais un die-in. C'est-à-dire qu'ils ont fait les morts vêtus
oui,
de chemises.
Oui, je pense que j'avais vu ça, ouais.
Ouais, vêtus de chemises imbibées de faux sang devant le kiosque de l'entreprise pour dénoncer les liens entre l'université et les sociétés d'armement responsables de la mort d'innocents à travers le monde. L'histoire ne dit pas si Thales est revenu recruter des étudiants dans cet établissement les années suivantes, mais j'en doute. Will, si je me trompe pas, t'es allé au public au secondaire.
Ah oh oui, là, dans la qualité le pur et dur, là, ouais. Bertievich.
Ouais, ben, je sais pas c'était comment toi, vestimentairement parlant. Moi, privé, en plus de l'uniforme, c'était vraiment strict. La jupe, pas plus de deux doigts au-dessus du genou. Pas de maquillage autorisé avant secondaire 4. Les ongles pouvaient être vernis, mais seulement d'une couleur neutre, fait que, genre, transparent.
Moi, je pense que, à part des têtes de mort, des fuck you, puis des briquetelles spaghetti, y a pas grand-chose, là.
Ben... La communauté étudiante de l'université de Kaposvar en Hongrie a connu un changement drastique à son code vestimentaire en 2013. L'établissement a décidé d'interdire le port de jupes courtes, de gougounes et de trop de maquillage, en plus d'exiger des cheveux et ongles dans un état, et je cite, « présentable ». Les hommes devaient aussi désormais porter des chaussures sombres et des blazers, et les femmes des chemisiers et des vestes. Il était seulement permis de retirer certains vêtements, genre les vestes et les blazers, justement, en période de chaleur. Fait que les étudiants, ben, ils ont pris ce règlement-là au pied de la lettre et ils ont manifesté et assisté à leur cours tout nus.
Ben, ils respectaient pas, je pense, à ce moment-là.
Ben, ils pouvaient retirer des vêtements puis ils portaient pas tout ce qui était...
interdit.
Non autorisé, c'est ça. Exactement.
Dis de même.
J'ai pas été capable de trouver l'issue de cette histoire, mais je pense qu'ils ont été un petit peu moins sévères avec le code vestimentaire.
Ou ils ont rajouté « Soyez pas tout nus », un des deux.
Exactement. Je pouvais pas finir ce segment sans parler d'une université de la Ivy League.
Ouh là là!
J'ai nommé Harvard.
Ouh.
En 1766, la célèbre institution est secouée par la grande rébellion du beurre.
Ah oui, Harvard et le beurre, j'adore.
C'est la première manifestation étudiante documentée dans l'histoire américaine. Ça a commencé avec l'auteur Asa Dunbar, qui était étudiant...
Pas Asa Dunbar.
Non, qui était étudiant à l'époque. Un jour de 1766, il s'est levé dans la cafétéria et il s'est exclamé haut et fort que le beurre puait. S'en est suivi d'une manifestation contre la qualité de la nourriture servie dans les cafétérias universitaires. Et Harvard a suspendu la moitié des étudiants. Mais ça n'a pas vraiment fait grand-chose. Au final, les responsables de la manifestation se sont excusés au conseil de surveillance, puis l'affaire a été réglée de même.
Mais le beurre puait-tu pour vrai? Y avait-tu un problème de beurre? Y avait-tu une intoxication alimentaire dans cette histoire-là?
Écoute, j'ai l'impression que les grandes instances ont voulu taire ça si jamais il y avait
ils
des problèmes de qualité.
Ils ont caché les
qualité.
Secrets du beurre.
Mais tu sais, en même temps, 1766, ça m'étonnerait pas que la chaîne de froid ait pas été respectée totalement.
Ça se peut fortement, effectivement.
Fait qu'écoute, c'est ça qui conclut ma partie.
Et cet épisode de cette nouvelle saison de Petite Obsession.
Exactement.
Merci d'être de retour parmi nous. Ça fait du bien d'être là. J'ai du fun d'enregistrer ça. Je sais pas toi, Hélène.
Vraiment, ça fait du bien pour vrai. Là, je sens une renaissance de
oui.
Petites Obsessions.
Le phénix puis... revient de ses cendres. Mais c'était pas tant des cendres, c'était de sa braise.
De son bronzage.
Oui, de ce petit été, son petit coup de soleil.
C'est ça, exactement. Si vous avez envie de poursuivre le plaisir, vous pouvez vous abonner, écouter nos autres épisodes. On est sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts. Mais vous pouvez également nous suivre pour plus de contenu sur Instagram, TikTok et Facebook. Puis qui sait, où est-ce qu'on sera la semaine prochaine?
On va être partout tout le temps, on sait pas. Tous les réseaux, on essaie d'être là. Threads, on a de la misère. Mais en tout cas, suivez-nous, on a du fun. Bonne journée!
On se voit dans deux semaines.
Bye!